With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Silence en joueur, Juan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler de Y2K, a post-modern RPG. RPG, si on fait tout le reste en anglais, c'est comme ça que ça se dit. Travis Strikes Again, No More Heroes, Castlevania Requiem, et on terminera sur Piku Niku. Gros programme cette semaine avec mes deux camarades, mes deux chroniqueurs favoris, mon mur porteur et mon pilier.
Qui est quoi, je ne sais plus.
Il faudra une sèche,
j'arrive pas à la colonne sèche. Patrick Elio, bonjour Patrick.
Bonjour Erwan.
Et Corentin Benoît. Gonin décroissant. Salut Corentin.
Salut Erwan.
On va commencer avec toi, Patrick. Ça va bien les deux, tous les deux, ça va bien.
Vous êtes plutôt. Ouais, j'ai dormi 3 heures pour finir Travis, tu vois. Donc.
Mais c'est cette conscience professionnelle, c'est.
Qu'est-ce qu'il est sérieux.
Ouais, ça a été bien. Ouais.
Ah bah, je vais vous parler de chiffres ce matin. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait des points sur des chiffres. Des chiffres que j'ai vu passer, plutôt intéressants. On parlera de Resident Evil 2 très bientôt.
Hein, ah oui.
C'est une question.
Sur les
chiffres.
Alors, c'est ça.
Ouais,
alors,
exactement.
À l'origine, c'était le prochain épisode. Je précise en début d'émission, comme ça ceux qui n'arrivent pas à la fin
le sauront
déjà. Oui, ce sera la prochaine émission, mais ce sera dans 2 semaines. Il n'y a pas de silence, on joue la semaine prochaine.
Bah voilà, donc ça raccorde avec notre actualité aussi, donc c'est important de le signaler. Donc cette démo de Resident Evil 2, rappelez-vous, une démo de Resident Evil 2, ça rappelait de bons souvenirs, parce qu'on avait déjà eu une démo du 2 alors, il y a 20 ans, hein, rappelez-vous, dans le Director's Cut du premier, on avait une démo jouable du deuxième, c'est un souvenir.
Et est-ce qu'elle était dans des magazines papier, tu sais, des magazines papier qui étaient avec un DVD de démo?
Non, j'en suis pas certain.
Ça existait encore à l'époque?
Ah oui, bien sûr, ça existait à fond même en 98.
Ah oui, c'était bien sûr.
C'était à fond. Je suis pas sûr.
Je
sais pas, ça serait à vérifier. Bah pour moi, elle était peut-être en exclu dans le Director's Cut, en fait. C'était vraiment le truc, on achetait le Director's Cut aussi pour la démo de Resident Evil 2. Capcom a relancé donc une démo jouable, cette fois du Resident Evil 2, qui fait vraiment l'actualité ces jours-ci. Et il a communiqué sur les téléchargements, qui aura atteint plus de 3 millions de téléchargements sur cette démo du jeu très attendu. C'est vraiment un des marqueurs du début de l'année. On a eu quelques chiffres. Donc cette démo, elle est sortie le 11 janvier sur PS4, Xbox et PC. Et Capcom a évoqué 26% de joueurs qui auraient terminé cette section jouable du jeu. On rappelle qu'elle était sur un système, une structure un peu particulière, parce qu'on avait un temps limité d'utilisation de 30 minutes.
Donc c'est limité dans le temps et
dans ton essai, en fait. Alors il y a des petits malins qui ont évidemment trouvé des moyens de relancer avec différents comptes. Il y a même des speedrunners qui l'ont terminé, je crois, en 3 minutes. Enfin bon,
super.
Bref. Et c'est marrant.
On verra peut-être à la GDQ ou pas. Hein.
Mais en tout cas, ça montre que il y a une attente folle sur ce titre, et c'est vrai que c'était plutôt malin de la part de Capcom de lancer cette démo jouable qui a priori va disparaître fin janvier pour laisser sa place.
Pas de speedrun alors. Dommage.
Au jeu final. On a eu des chiffres aussi du côté volume, du côté de Microsoft. Un chiffre qui est sorti sur Forza Motorsport 4, qui aurait passé les 7 millions d'utilisateurs. C'est quand même énorme. Mmh. 7 millions. Alors, il faut se rappeler quand même qu'il est sur le Game Pass. Donc, ce ne sont pas 7 millions d'achats du jeu, mais 7 millions de gens qui ont joué, ce qui est quand même pas rien.
Est-ce qu'on a les chiffres de Croutou surtout? Moi, c'est ça qui m'intéresse.
Pourquoi?
Non, c'est la même chose, j'ai vu ça.
En tout cas, ça prouve ce qu'on avait dit en parlant, c'est que c'est vraiment devenu un poids lourd des exclus Microsoft, ce jeu.
Et c'est le poids lourd. Est-ce qu'il y en a d'autres encore
chez Microsoft
qui attend Halo?
Il y a beaucoup de monde, en fait. Surtout aux États-Unis, nous, on s'en bat les steaks, mais en vrai, aux États-Unis, ils sont quand même beaucoup à attendre.
Une grosse communauté, ouais, c'est quand même pas
négligeable. Et le truc là avec les mecs avec les les grosses armures là.
Gears of War.
Ah, Gears of War, ouais.
Ouais, je sais pas où ça en est, ça, Gears of War.
Oui, il n'y en a pas un qui est dans les tuyaux là.
Bah, sans doute.
Il
hein.
y en a un qui est dans les tuyaux, je crois. Bah, c'est le 5, je crois. Moi, bah, je sais plus.
Mais bon, c'est vrai que le cœur de. C'est Forza. Enfin, c'est
les... Ouais, ouais. Bah, surtout ce Forza là, il est. Moi, ça m'étonne pas. Et je serais curieux d'ailleurs d'avoir les chiffres des Forza classiques par rapport à Horizon. Mais c'est vrai que l'Horizon, il est tellement chouette. Mais pour tout le monde, il est inclusif, le Horizon. Et du coup, ça m'étonne pas qu'il y ait des gros chiffres dessus. Moi, je suis très content des bons résultats de Forza Horizon.
La coolitude des bagnoles.
Mais grave, grave. C'est vraiment, vraiment chouette, Horizon. Même un type comme moi qui aime pas les bagnoles, bah, on se marre vraiment bien, quoi.
Yep.
Et un dernier record de vente qui a été obtenu, même si c'est moi personnellement, c'est pas forcément ma cam, par Super Smash Bros. Aux États-Unis. On sait que le jeu cartonne partout, il n'y a pas qu'aux US, mais on a eu un chiffre qui est sorti par, du côté de NPD, donc qui observe le marché américain, qui parle de 3 600 000 boîtes vendues sur le premier mois de commercialisation. Donc le jeu casse aux États-Unis, en boîte. Donc ça casse un record historique. Je crois qu'il était un Halo, d'ailleurs, c'était un Halo qui tenait le record du genre.
Et du coup, c'est sans compter les téléchargements.
Oui, et puis bah, voilà, on sait que le jeu fait enfin, c'est vraiment un gros carton.
Je crois qu'il a déjà dépassé la version 3DS qui était, il me semble, la plus vendue. Sauf c'était peut-être drôle, je ne sais plus.
C'est marrant parce que ça me donne une sorte de sentiment un peu étrange, en fait, d'être là face à un phénomène de masse. Ouais. Et je me sens exclu d'un phénomène de masse. C'est assez rare.
Je suis assez d'accord.
Si vous voulez, je vous inviterai chez moi et on sera une petite séance de rattrapage. Je vous apprendrai à jouer.
Mais non, mais tu vois, quand tu vois
les. C'est colossal, oui, c'est un vrai phénomène.
Non, mais les bons chiffres de vente.
Let's Guard, c'est parti.
Non, mais les bons chiffres de vente d'un Mario Kart et tout ça, je suis là, ouais, non, c'est cool, c'est vrai, machin. Et puis là, je vois les. Et tu vois, c'est. Je sais pas, c'est.
Bon après, c'est le,
j'ai
c'est
l'impression de rater un truc. Je rate un truc, je le sais. Hein,
c'est un peu le Mario Kart du jeu de combat au final. Donc, après, si on n'est pas ultra jeu de combat non plus, je peux comprendre qu'on puisse passer à côté d'un
et
truc pareil.
Et là encore, on se rend compte que c'est vraiment un gros. Bah, comme le Forza Horizon 4 hein, de Microsoft. Là aussi, c'est un vrai poids lourd, c'est un ambassadeur pour la console. Quoi. C'est clair et net. Je sais pas, il y a combien de Switch aux US ? Peut-être 8 millions, 9 millions ?
J'ai pas trop suivi les chiffres.
Quand on voit le ratio, on imagine avec le démat, c'est une personne sur deux, voire plus, à acheter.
18 millions dans le monde.
Donc on doit être peut-être à 8 aux US, Amérique du Nord. Donc il y a un mec sur deux qui a acheté le jeu, minimum. Puis c'est qu'un début. Attention, on parle du premier mois. Donc c'est vraiment un jeu qui va tout étaler sur son passage. Bien joué. Et puis ils l'ont lancé au bon moment aussi. Il est arrivé Noël, fin d'année. Il était pile au bon moment.
Et il a un peu sauvé l'année de Nintendo d'ailleurs. Parce que Pokémon et Smash Bros. Sont les deux grosses ventes qui ont vraiment tiré la Switch sur l'année 2018. Sinon, ça aurait pas été une très bonne année. En même temps, il y avait beaucoup moins de sorties par rapport à 2017.
Ouais, tu vois, Nintendo Labo, on en avait parlé, qui a fait beaucoup parler, mais qui a priori en termes de ventes, ça n'a pas suivi.
Ah, il a flopé.
Alors, c'est ce qu'on avait dit, je crois, la dernière fois. C'est que c'était vraiment une des bonnes idées de l'année dernière.
Le prix de la surprise, si on s'en joue deux éditeurs.
Mais exactement. En termes de ventes, ça n'a pas été une locomotive. Alors que moi, je pensais vraiment que ça se transformerait en hit. Et
c'est super.
Je pense
j'adore,
que ça va être à suivre. Ça va être à suivre. Je pense qu'ils vont
bien
pas rester là. Et voilà, je pense qu'ils vont sûrement améliorer le concept ou en tout cas le re-questionner à l'avenir. Mm. C'est dommage que c'était vraiment une initiative vraiment intéressante qui cassait des barrières.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Alors moi, c'est moins rigolo, mais bon, faut en parler. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant quand même. Il y a eu une affaire qui a pas forcément fait trop de bruit, parce qu'on parle pas de triple A ou quoi, mais il y a eu un jeu Westworld qui est sorti l'année dernière, le 21 juin 2018, donc il y a 6 mois à peu près. Et en fait, ce jeu a fait parler de lui. Pourquoi ? Parce que il ressemblait à s'y méprendre. Donc Westworld, dans la série de HBO, sûr. C'est l'adaptation par Warner Bros. Il ressemblait à s'y méprendre à Fallout Shelter. Et d'ailleurs, c'était pas complètement bizarre, parce que c'était Behavior Interactive, un studio canadien, qui s'en était occupé. Et il se trouve que ce studio-là s'était occupé, avait développé Fallout Shelter.
Les mecs sont partis avec.
Bethesda, ils sont allés ils ont fait toc toc. Le code a l'air d'être le même, en fait. Donc on va peut-être vous attaquer en justice, s'il vous plaît. S'il vous plaît, oui, non, peut-être pas. Bref, ils se sont pris ils se sont fait attaquer en justice. Et du coup, on attendait la résolution de ce truc-là parce que là, il y avait ils allaient attaquer sur les droits, tout ça, mais aussi rupture de contrat, d'exclusivité.
Bien sûr, sur des trucs que tu signes, tu pars pas avec les technologies.
Exactement. On va en parler, mais c'est une Bethesda, une petite histoire avec les technos qui se barrent.
C'est ce que j'allais dire, c'est pas la première.
Mais du coup, voilà, l'affaire vient d'être résolue à l'amiable entre Warner Bros. Behavior et Bethesda. Et à l'amiable, ça veut dire vous arrêtez ce que vous faites immédiatement. Ah oui. Donc là, ça y est, Westworld a été retiré des stores et le jeu va être arrêté pour ceux qui ont encore le jeu le 14 juin.
C'est à l'amiable si on veut, quoi. C'est quand même, tu sors ton jeu des stores et tu rends le code.
Je pense qu'à l'amiable, ça veut dire je ne vous fais pas faire faillite, mais vous arrêtez ce que vous faites. Ouais. Et donc, ceux qui ont dépensé de l'argent pour avoir de la monnaie virtuelle sur le jeu ont jusqu'au 14 juin pour le dépenser. Jusqu'au 21 juin, pardon.
Ils se font rembourser ou pas?
Bah non, dépensez vos sous sur le jeu et après le service est fini quoi. Donc il y a plus de jeu.
Claquer tes sous pour un jeu qui s'arrête,
c'est chelou.
Enfin, peut-être que je continue, j'en sais trop rien, j'ai jamais lancé Westworld, mais bref. Je sais pas trop. Bref, claquez vos sous si vous en avez le 21 juin parce qu'après c'est mort. Shelter c'était sorti le 14 juin 2015 et c'est vrai que bon, c'était une histoire qui était un peu triste, mais c'est vrai quand tu regardes la gueule du jeu, les personnages bougent pareil, c'est un peu gros quoi, les ficelles sont un peu grosses. C'est pas la première fois que Bethesda se fait piquer des technos, puisque John Carmack et Palmer Luckey s'étaient fait aussi attaquer par ZeniMax, la maison mère de Bethesda.
Sans ambiguïté, des choses parties, embarquées.
Mais là, Bethesda avait pas gagné, là, je crois.
Si, quand même. Si. 25 millions, dollars.
Ils ont des très bons avocats, je pense.
ZeniMax, le mec qui a fondé ZeniMax, je crois qu'il avait une carrière dans le législatif avant, dans le droit avant. Donc peut-être qu'il a l'attaque en justice facile. Hein. Alors, il y a une autre news qui m'a intéressé. C'est une citation pendant un earnings calls de Netflix, donc pendant une réunion du conseil d'administration, d'investisseurs, tout ça, et qui ont dit quand même, et c'est lunaire cette citation. On est davantage en compétition et on perd plus face à Fortnite que face à HBO. On parle de Netflix. Hein. Ouais. Donc Netflix, je rappelle, c'est 10% du temps de télé aux États-Unis et un peu moins sur mobile. On perd plus face à Fortnite que par rapport à HBO. C'est hallucinant. Et on connaît en plus là.
On parle pas des mêmes phénomènes non plus.
Non, mais c'est hallucinant. Alors, quand ils disent ça, en fait, ils parlent pas que du jeu, parce que c'est vrai qu'on pense aux jeux, les gens qui jouent à Fortnite, mais en fait, non, ils pensent aussi à YouTube, aux gens qui streament, les gens qui regardent les vidéos, des gens qui regardent des YouTubeurs. Et c'est vrai que quand on commence à regarder, on se dit, bah oui, parce que Fortnite, c'est quand même, ils sont largement premiers sur Twitch, alors qu'il y a encore pas si longtemps, c'était Dota 2 et LOL qui étaient premiers dans les classements et tout ça. Par exemple, je sais plus c'était quand, mais en octobre, il y a eu YouTube qui était tombé en rade pendant quelques minutes, et Netflix a eu des pics d'inscription et de vues à ce moment-là. La preuve à quel point YouTube et Twitch et tout ça a pris vraiment une place prépondérante dans le temps de visionnage disponible des gens d'une certaine manière. Netflix, s'ils mettent vraiment Fortnite à ce niveau-là, alors que Netflix, on sait quand même la machine que c'est maintenant.
Imagine Epic Games qui met des films bientôt, qui met des films sur son store.
C'est la merde.
Et là, c'est vrai que c'est évocateur de la puissance
et de cette concurrence de toute façon qui est de plus en plus réelle. Je me rappelle avoir discuté avec des boss de Nintendo à l'E3 2005, je crois, ou 2006.
Ah oui, ils disaient Fortnite déjà.
Et ils avaient un discours de dire on n'est pas en concurrence, c'était à l'époque de la Wii et tout ça, on n'est pas en concurrence avec Xbox, PS4, on est en concurrence avec tous les gens qui prennent du temps. La base de la concurrence, c'est une concurrence de temps, c'est-à-dire les gens, la seule chose incompressible dans l'univers, c'est le temps.
Plus que de budget, quand
on utilise pendant une heure quelque chose, on n'utilise pas d'autres choses.
Écrans en même temps, mais là, ça. Il y en a qui le font, hein. Attention, hein. Il y en a qui le font.
Mais cette concurrence sur le temps, elle est fondamentale. Et c'est vrai que ce que dit Netflix là, ça vaut pour Fortnite, ça vaut pour la télévision d'une manière générale, ça vaut pour tout ça. Et après, c'est toute cette économie de l'attention qui est aussi cette monnaie quelque part du temps, pour la capter, c'est l'attention des utilisateurs. Et c'est une guerre sans merci. Et les premières victimes étant les consommateurs, parce que les techniques de captation de l'attention aujourd'hui, on sont arrivés à un tel degré de d'expertise quand tu vois Fortnite. Quand tu vois Fortnite, le système de captation d'attention de Fortnite, je comprends que Netflix il panique un petit peu parce que Netflix finalement
ils paniquent pas, hein, mais ils disent
non, ils paniquent pas, bien sûr.
On les a plus dans le collimateur que
bien sûr,
les surveille.
Mais parce que l'attention que génère Netflix, à la limite, il y a des, évidemment, ils ont des petits des petites routines comme ça, comme l'épisode suivant qui se lance automatiquement, etc. Ça, on connaît. Mais par rapport à la techno utilisée par Fortnite en termes d'abonnement, de saison, de récompenses quotidiennes, ouais, si on revient jouer et de choses comme ça.
Et d'investissement personnel, je pense.
Le lancement de l'épisode suivant, c'est de la gnognotte par rapport à la captation d'attention de Fortnite.
C'est pour une raison simple, c'est que Netflix il travaille sur un système d'abonnement payant. Donc pour Netflix, ce qui est primordial, c'est pas le temps que tu restes devant Netflix, même si c'est très important, mais c'est plutôt rester abonné parce que tu as envie de voir telle série que tu sais qui va tomber sur Netflix, ou une exclue, voilà. Mais alors que Fortnite, eux, si t'es pas en train de jouer à Fortnite, t'es sûr que tu dépenses pas de l'argent pour Fortnite. Donc, ils ont besoin que les gens continuent à jouer et à jouer et à jouer et à jouer. Voilà.
Mais c'est fascinant et je pense qu'on aura ce type, il y aura ce type de déclaration de plus en plus avec des choses qui arrivent à.
Ne vous inquiétez pas, l'interactivité arrive sur Netflix.
Ah, super. Moi, j'ai hâte d'avoir Fortnite Story Mode sur Netflix. Super.
Bah non, mais ça fait rêver. Ça peut aussi être une réponse, quelque part, une forme de réponse à ça aussi. Un investissement différent de l'utilisateur sur de l'interactif.
Allez. Et là, c'est la plateforme de Disney qui le sort. Fortnite Story Mode. Et là, c'est fini.
On est foutu. Le com des com de la semaine dernière. Alors, un petit mea culpa, hein, parce que il y a eu quelques réactions. Il semblerait que j'eus été un poil excessif avec Onimusha.
Tu as été dédaigneux sur Onimusha.
Voilà, oui, bon,
disons-le clairement.
Excessif.
Tu étais très piquant sur Onimusha. Ouais, je venais en parler et j'ai été.
Le commentaire notamment de Monsieur Chien. Erwan, tu refoules quelque chose avec Onimusha? Mais que t'a-t-il fait ce pauvre vénérable jeu pour susciter cette colère à peine contenue?
C'est vrai que t'étais vénère, j'ai pas compris. T'étais mal réveillé, peut-être tu as eu un truc.
Oui, voilà, c'est ça. Aucun intérêt. Onimusha, c'est le jeu qui m'a fait acheter une PS2. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était à la Fnac des Ternes. Une véritable claque graphique.
Non, mais tu rigoles, mais on a tous nos souvenirs.
Mais oui, mais bien
moi, c'est
sûr.
C'est la Dreamcast,
bien sûr,
je me rappelle à la Fnac. Alors,
c'est Heroes of Magic 2 à la Fnac de la Défense. Mais bon, bref. Voilà.
C'est quoi le premier jeu qu'on a acheté, c'est ça?
Non, pas le premier jeu, mais c'est celui, un des jeux que j'ai le plus attendu et je faisais le petit grue à l'époque. bref, une véritable claque graphique à l'époque que permettaient les décors en 2D léchés hérités de Resident Evil. L'action était dynamique, le perso était bien animé, l'ambiance Japon, époque Sengoku, mystérieuse juste comme il faut, une merveille qui tient toujours la route aujourd'hui, je trouve, pour peu que l'on fasse un petit effort de contextualisation. Pas fondamentalement de différent de Devil May Cry, sorti à cette époque, juste après il me semble, juste un peu moins nerveux. Dirais-tu aussi que DMC n'avait aucun intérêt? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Tu as une heure. J'en profite pour remercier
les... Patrick, on y va.
Il en profite.
Rocky IV, je l'ai pas vu encore.
Ah, c'est vrai. Bah, viens à la maison.
Il en profite pour remercier toute l'équipe de ce super podcast qui suit depuis le premier épisode. Bref. Je fais mon mea culpa. Peut-être que, je sais pas.
Tes paroles ont dépassé ta pensée, je pense.
J'adore cette phrase.
On a senti
que c'était épidermique et j'ai pas compris non plus parce que, c'est ce que je disais. Nimusha, il n'y a pas un soin fabuleux sur la réédition. C'est sympa de le retrouver aujourd'hui en deux clics. Tu te le prends, tu rejoues avec.
Je comprends, mais c'est parce que je pense que j'avais pas cette histoire. J'ai pas cette histoire avec Onimusha. J'y ai joué à l'époque j'ai pas une histoire de. J'ai pas un rapport sentimental, émotionnel avec cette licence. Avec cette réédition qui était quand même pas des masses retravaillées.
Service minimum.
J'étais là, à quoi ça sert?
Mais là, tu as attaqué le jeu.
Mais oui,
plus
voilà.
Que la réédition.
Et c'est là où.
Ça me laisse.
Je comprends. J'ai
carton
peut-être.
Rouge. Voilà. Non, mais après, t'as le droit tout à fait de critiquer Onimusha. Moi, je peux comprendre que. Voilà,
c'est un jeu qui a
le droit aussi. On a le droit. Oui, il a vieilli, évidemment. Mais encore une fois, ce que je disais, c'est que c'est un jalon dans l'histoire.
Je pense que j'ai été un poil trop véhément quand même.
Et c'est aussi pour ça qu'on t'aime, Erwan. C'est quand t'es assez gueulante comme ça fait partie aussi de Silence on joue.
Seulfren qui nous dit je suis assez d'accord avec Erwan, j'ai fait les deux. Concernant Bandersnatch, Charlie Brooker a compris qu'on avait atteint la la limite de l'exercice concernant les films interactifs. Ce type d'œuvre n'a plus rien à prouver ni à inventer. On se retrouve très vite au bout de l'impasse, malgré le fantasme que cela produit encore. Autant dès lors en faire une œuvre qui se regarde elle-même, presque absurde. Ça a tellement plus de sens que de croire qu'on va faire révolutionner le genre. Je suis intimement convaincu qu'on ne sait pas raconter des bonnes histoires avec des embranchements multiples. Il y aura toujours une branche maîtresse et des branches secondaires. Alors se pose la question de savoir combien de personnes feront la bonne histoire. Car oui, il y a la bonne. En tant qu'auteur, c'est assez problématique de savoir qu'on ne partagera pas la force de son propos avec la majorité des joueurs spectateurs. Une histoire est par définition linéaire. Alors oui, je sais qu'on ne va pas partir dans un débat, mais j'aimais bien.
De toute façon, ça a lancé un gros débat dans le forum.
Très bien de réagir. C'est très bien que chacun ait son opinion là-dessus.
Je suis en total désaccord.
Mais moi aussi, je pense qu'à un moment, c'est au game designer de reprendre la main aussi à un moment donné, de faire des choix dans le game design.
Un autre exercice.
Dans la narration. Enfin, voilà, je ne pense pas non plus que.
Mais moi, je suis assez d'accord. Mais on en parle.
Il faudra une émission d'une heure peut-être pour.
T'as différents cas de figure. T'as ou bien.
Narration et linéarité.
Ou bien, quand tu fais ton game design, tu sais que tu vas avoir 10 fins différentes, mais tu dois soigner les fins différentes en te disant que chacune est valable. Ou alors, tu vas aiguiller plus le joueur vers la fin. Tu vois, école Walking Dead, première saison.
Ou alors, école visual novel, tu inclus la présence même d'embranchements dans la narration.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a des exceptions.
Mais à ce moment-là, les embranchements font partie de la linéarité de l'histoire. Tu vois,
je suis entièrement d'accord avec ça, mais c'est pour dire que c'est pas antinomique toujours. La linéarité et les choix peuvent exister ensemble. J'invite cette personne à essayer la série des Zero Escape qui, justement, inclut vraiment la notion de choix dans la diégèse même de l'histoire du jeu.
Un peu comme Bandersnatch.
Mais c'est beaucoup plus subtil
sans ces boucles de fin de partie qui pour moi cassent complètement l'immersion et la sensation.
Dans Zero Escape, tu fins et tu recommences.
Je parle de l'expérience Netflix avec mais ces boucles narratives qui te font recommencer à la fin qui, je trouve, sont frustrantes. Justement.
Mais c'est un débat infini.
Chers amis, nous avons un programme à respecter, c'est vrai. C'est vrai qu'on a fait une émission beaucoup trop longue la semaine dernière, mais bref.
Ah oui, j'ai vu beaucoup de gens se plaindre d'ailleurs.
Ah, ça va. Non mais moi je me plains. Moi je me plains, ça me suffit.
Tu as raison.
Et donc on va commencer avec un ovni pour le coup qui était déjà présent sur PC, qui débarque sur Switch.
Non, il vient de sortir.
Ouais, il vient de sortir partout. J'ai mal lu alors.
Pas de problème.
C'est donc Y2K Postmodern RPG.
Have you noticed how weird things have been? The world's going down. You saw it in the mind.
What? What the hell are you talking about?
Est-ce qu'on peut qualifier ça de chelou?
Oui, mais bon, est-ce que c'est la première fois qu'on voit des jeux chelous de ce genre ? Non. En fait, c'est un jeu qui veut être chelou, mais qui copie d'autres jeux chelous. Donc, du coup, il rentre dans une case qui n'est plus vraiment chelou.
C'est ça.
Donc, c'est un peu particulier. On va peut-être remettre tout en perspective, tout à plat. Ouais. On va expliquer de quoi il s'agit. Donc, Y2K, qui est un RPG assez classique, finalement, dans son approche de game design.
JRPG,
qui peut s'approcher, on va dire, de tout ce qui est Mother, Shin Megami Tensei, Persona, pour ceux qui connaissent mieux cette série-là. Et qui est fait par Axe Studio, c'est principalement deux frères qui gèrent ça. Et alors,
les frangins Alanson.
Et alors, c'est un jeu qui est attendu depuis un sacré bout de temps. Enfin, quand j'ai démarré au Journal du Geek, par exemple, je crois que j'avais mis ça dans mes tout premiers attentes 2014 ou un truc du genre. Enfin, vraiment, c'était. Ça fait un moment que ce jeu est dans les tuyaux et que l'esthétique du jeu, ce qu'il semblait vouloir vendre comme ambiance et comme discours m'attirait parce que je suis fan justement des Mother, des Earthbound et tout ça et que ça semblait aller dans cette direction-là. Et d'ailleurs, ils s'en cachent pas. Hein, c'est vraiment dans cette optique-là qui vont les frères Alanson. Donc, on est dans un RPG autour par tour. Le setting, on va dire, est le suivant. On incarne Alex qui revient de l'université. Il vient d'avoir son diplôme. On est en 99 et je crois que c'est un des personnages les plus antipathiques que j'ai jamais eu l'occasion d'incarner. C'est un branleur, hein. Faut dire les choses telles qu'il est. C'est un branleur, un but de lui-même, un peu hipster, complètement hipster même. il est barbu, il a des lunettes, il porte des chemises de bûcheron. Il pense un peu tout savoir sur la vie parce qu'il a lu trois livres dans sa vie. Et
Et il est un peu insupportable, même s'il a un fond de naïveté qui fait qu'on se dit bon, il est jeune encore, tu vois, dans sa tête, et il est encore sauvable, on va dire. Mais voilà, on incarne ce type avec qui on est rarement d'accord, et on commence à donc le plot, c'est on rentre et on va faire les courses, et là on suit un chat qui nous vole notre litre de course, et on va tomber dans un bâtiment désaffecté dans lequel on va tomber sur une dame qui s'appelle Semi Park. Alors à l'intérieur du bâtiment, c'est un monde onirique un peu chelou, un peu comme Alice au pays des merveilles. Oui.
Juste un point, ouais. C'est-à-dire que on commence. Alors le jeu est très coloré, à plat de couleurs, fluo. Ça part. Enfin voilà, on est un peu dans un truc hyper stylisé. Hyper coloré.
C'est assez lopoli, mais assez coloré. Voilà, ouais. J'aime bien le style graphique.
Oui, le style graphique est pas. Et on commence avec juste. On commence avec Alex dans un truc semi-réaliste. C'est-à-dire, on est à un arrêt de bus, on va à sa maison, on rentre à sa maison, la mère a laissé un mot, il faut aller faire les courses. Donc on se dit. Parallèle avec Persona, c'est-à-dire qu'on sent bien que vu qu'on est quand même sur un modèle JRPG, ça va partir en sucette à un moment.
On va vivre sa vie, quoi.
Mais bon, on est dans un monde un peu réel quand même. Ouais. Et bah en fait non. C'est-à-dire que le personnage arrive dans un monde onirique, se met à se battre dans un combat tour par tour façon JRPG.
Avec des vinyles d'ailleurs.
Sans aucun problème. C'est-à-dire que ça ne pose. C'est dans une linéarité complète. C'est-à-dire qu'on suit un chat qui nous vole une liste de courses.
Un chat à moustache, t'as oublié de dire. Mais vraiment une moustache d'Ali, quoi. C'est voilà. Une moustache à la Dali.
Il s'appelle Dali,
le chat d'ailleurs.
Et c'est d'un naturel, c'est-à-dire qu'on part dans un what the fuck complet et le personnage n'est pas du tout choqué.
C'est presque une tradition qu'on a dans les Mother, en tout cas, enfin où c'est pareil dans Mother 1 par exemple, on sort de chez soi et on se fight contre une voiture. Enfin, tu vois, c'est
ce type de jeu là, quoi.
Sans vouloir spoiler quoi que ce soit au niveau de l'histoire ou quoi, et de toute façon je suis pas sûr de vous recommander le jeu à la fin, mais c'est inclus dans l'histoire cet aspect, c'est bizarre, on est dans un monde réel et au bout d'un moment on tombe dans un monde onirique. De toute façon les personnages au bout d'un moment se rendent compte que mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on se bat, pourquoi il y a ces monstres là qui nous sautent à la gorge, voilà. Mais donc l'élément perturbateur, on va dire l'élément déclencheur de cette histoire, c'est on rentre dans ce bâtiment, c'est un monde un peu onirique chelou avec des espaces non euclidiens, voilà, et on tombe sur une jeune femme qui s'appelle Semi Park. Et Semi Park, elle a l'air très gentille, et puis on l'accompagne, on sent que Alex commence à avoir le crush un petit peu sur elle, et puis au bout d'un moment on prend l'ascenseur et là l'ascenseur s'arrête, s'ouvre, et trois entités de l'espace presque la kidnappent.
De l'espace.
Et elle crie au sauve-moi, sauve-moi. L'ascenseur se referme. On n'a rien pu faire. Alex est tétanisé. Il rentre chez lui. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que Alex, il est un peu adepte de théorie du complot. Et on est en 99, donc c'est les débuts d'Internet. Et Alex, il est très actif sur un forum qui s'appelle Onism. 1999, et là-dessus, c'est toutes les théories du complot. Il se trouve qu'il y avait une caméra de surveillance dans l'ascenseur et du coup, les images du kidnapping ont été vues et du coup, ça devient une rumeur sur Internet et tout le monde se dit mais qui est cette fille qui s'est fait kidnapper par des extraterrestres, grosso modo, il faut la retrouver. Et du coup, il y a une espèce de rumeur sur Internet qui se lance et tout le monde, ça devient un mythe urbain, une légende urbaine en fait, la Semi Park, et tout le monde devient un peu fou avec ça. Et c'est là-dessus que va démarrer cette histoire. On va partir à la recherche de Semi Park, on va retrouver un ami d'enfance avec qui on va retourner dans le bâtiment, etc. Et ça va être le point central de cette histoire, c'est de retrouver cette personne. Et évidemment d'autres éléments surnaturels vont subvenir, on les accepte de plus en plus parce que de toute façon on va nous ingurgiter finalement des règles un petit peu de cet univers qui est un peu particulier. Les âmes fonctionnent d'une certaine manière. Il y a une histoire de monde parallèle qu'on nous donne. C'est pas facile à ingurgiter parce qu'on nous l'amène un peu comme ça de but en blanc.
Alors est-ce que je peux dire, vas-y, juste sans spoiler, mais qu'on peut trouver ça un poil prétentieux.
C'est ultra.
Tu mets des gants.
Le jeu.
Depuis Onimusha, moi j'ai appris. Oulala.
Ce
qui est assez beau, je trouve, c'est
qu'on peut éventuellement.
Ce que je trouve assez beau, c'est que le jeu est aussi prétentieux que son personnage principal. Mais c'est pas toujours injustifié. Parfois, c'est injustifié, je suis d'accord, et je trouve des fois, tu dis, c'est pas possible d'amener des éléments immenses de l'univers comme ça juste dans un dialogue. C'est pas possible. Et c'est trop compliqué. N'amenez pas ça comme ça. C'est chiant. Puis il y a des moments, tu fais bon, pourquoi pas, après tout, allons-y. L'idée est intéressante. Allez, je vous suis. Je vous donne votre chance. Mais je suis d'accord avec toi. Des
fois, il y a des moments où on met pause, on fait qu'est-ce que je viens de lire, qu'est-ce qui vient de se passer.
C'est notamment parce que ça joue hein, sur le personnage d'Alex qui passe du mode dialogue, je parle avec les autres, à un mode auto-narration. Ouais. C'est-à-dire
il part en aparté.
Il fait sa propre voix off pour il raconte cette histoire comme ça et avec des digressions. Pas forcément utile, pas forcément captivante, et avec une sorte où les gens qui ont écrit ça, en fait, s'écoutent un peu écrire.
Ouais. Mais voilà. En fait, ce que je trouve formidable, c'est comme Alex est insupportable,
oui.
C'est justifié, tu vois ce que je veux dire. Il y a une grosse critique qui est sortie sur le jeu, c'est « Oh mon Dieu, Alex est insupportable, je ne supporte pas ce personnage, j'ai envie de le baffer, j'ai envie de le jeter contre un mur, au secours. »
Ça se confirme.
Mais moi, je pense qu'on a le droit de faire des histoires avec des personnages insupportables aussi, tu vois ce que je veux dire ?
C'est pas faux. Mais là, pour le coup, dans ce sens-là, c'est plutôt réussi.
Et du coup, dans cette optique-là, c'est réussi. D'autant que tous les autres personnages, donc on se fait, comme dans un Persona, comme dans Shin Megami Tensei, on se fait une équipe avec des gens avec qui on va avoir des relations, avec qui on va s'attacher, qui ont des goûts, des caractères et de ça. Et tous les autres le trouvent insupportable aussi, c'est ça qui est génial. C'est qu'il y a des moments où... plus personne ne lui parle pendant une dizaine de jours parce qu'il a fait une crise de nerfs. C'est vraiment un petit con. Et je trouvais ça assez fascinant et
d'accord.
Cool. Parce qu'il y a des enjeux assez intéressants. Par exemple, à un moment donné, je le dis parce que je pense que là-dessus, on aurait pu vraiment baser un super RPG. Et malheureusement, c'est pas le cas. Le jeu a plein de problèmes. On va en discuter. Mais à un moment donné, la mère d'Alex, qui travaille dans l'informatique et gagne bien sa vie, annonce à son fils, mon chéri, je suis désolé, j'ai perdu mon emploi aujourd'hui. Ou en tout cas, je vais bientôt le perdre. Ça serait bien, tu trouve un petit job pour aider à la maison, quoi. Et s'ensuit une longue phase où le héros a une lutte contre lui-même parce qu'il n'a pas envie de travailler pour aider sa mère, alors qu'il ne fait rien. Il a une chambre là-haut et il ne fait rien. Et genre, tout le monde se fout de sa gueule, genre, mais tu te rends compte que ta mère, elle a payé tes études, elle t'a supporté jusqu'à présent et que tu galères à pas vouloir l'aider là. Et je trouve ça super. C'est un super point de départ alors, pour un RPG moderne et tout ça. Bref.
En quoi ? C'est quoi le problème ?
Il y a plein de problèmes. Déjà, d'un point de vue métanarratif, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites pépites narratives, des bons dialogues, d'autant que c'est très bien, je trouve que c'est plutôt bien doublé à titre personnel. Oui, oui. Il y a un bon travail sur le doublage qui a été fait, ils ont trouvé des bonnes personnes pour le faire. Bref, le jeu est pas fini dans les coins, c'est assez terrible. Il y a un manque de finition dans ce jeu qui est hallucinant. Il y a certains dialogues où c'est pas le même doubleur qui double Alex. Voilà, juste. Voilà, ce genre de choses-là. Donc c'est un RPG, il y a un overworld, enfin un monde général, et on se balade et des fois il y a des combats aléatoires. 10 à 15 secondes de temps de chargement, j'exagère peut-être, 5 à 10 secondes de temps de chargement pour un combat aléatoire. Déjà que les combats aléatoires c'est insupportable. Ouais, si en plus tu dois taper 10 secondes de combat, c'est difficile.
Rédhibitoire même.
Ouais. Les combats sont lents. Sont vraiment lents, sont pas inintéressants, mais ils sont lents.
Bah, c'est répétitif quand même.
Il y a certains boss qui durent moins longtemps que certains ennemis aléatoires. Tu ne comprends pas pourquoi.
Ça, c'est chelou.
Il y a des ennemis qui. Enfin, tu vas battre un ennemi à la con, tu vas gagner 100 points d'expérience, sachant que tous les 100 points, tu gagnes un niveau. Et puis tu vas battre un boss, tu vas prendre 10 points. Et tu sais, mais pourquoi ?
C'est voulu, il y a une question d'absurde.
Il y a peut-être une critique, mais quand la critique t'énerve
c'est pas,
toi-même.
C'est pas bien mis en scène.
Voilà, t'as pas envie de la. Tu t'en fiches. T'es pas obligé de subir la critique des RPG faits. L'OST aussi est assez inégal. Alors, on a dit d'un point de vue graphique, moi j'aime beaucoup l'aspect graphique. Pour le coup, c'est un des points les plus réussis du jeu, je trouve. Il y a vraiment quelque chose de réussi, notamment dans l'animation des personnages qui est avec très peu d'images par seconde, c'est fait exprès. Moi, je trouve que ça marche très bien. Mais l'OST. Alors, l'OST, il y a l'OST qui est faite par les frères Alanson. Et en fait, ils auraient pu s'asseoir avec leurs fesses sur un clavier de piano. Ça aurait été aussi bien. Non, j'exagère évidemment. Mais genre, ça chante faux. C'est, hein. Et puis, à côté de ça, il y a des Callum Bowen. On va en reparler tout à l'heure. C'est celui qui a fait les musiques depuis Kuniku, qui a fait une piste super cool. Il y a Michael Kelly qui a fait toute l'OST de Valhalla, c'est des super musiques. Il y a Toby Fox qui a fait une putain de musique pour ce jeu. C'est-à-dire que c'est une espèce de all-star, enfin pas all-star, mais il y a plein de mecs cool qui ont fait des putains de bonnes musiques pour ce jeu. Puis à côté de ça, de temps en temps, t'as vraiment des musiques qui sont pas bonnes, qui sont pas faites pour des combats.
C'est pas cohérent.
C'est pas cohérent. Ce jeu est inégal. Il y a vraiment des moments de génie où je fais ah là c'est vraiment cool, là c'est vraiment cool. Puis juste après, t'as un truc qui va immédiatement te faire une douche froide juste après et tu vas faire mais les gars, mais c'est ouf de pas. Vous l'auriez passé dans un service qualité, vous l'aurez dit ça que c'était pas bien. Et c'est vraiment super dommage parce que je sens qu'il y avait plein de bonnes choses, il y a plein de bonnes intentions, mais qu'au niveau de la réal, au niveau de
de la finition, au niveau de comment ça a été dirigé, il y a un manque de recul évident qui est peut-être lié à ce que tu dis, les mecs s'écoutent parler, ils ont une prétention trop grande, voilà, qui est vraiment dommageable. Parce que là, ils ont quand même pondu un putain de JRPG, les mecs, de 30 heures à deux. C'est vachement bien d'avoir réussi à faire ça, tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je trouve que c'est dommage parce qu'un tout petit peu de recul, un tout petit peu d'avis extérieur peut-être, d'enrichissement extérieur aurait pu aider à sortir un autre jeu. Il y a plein de bonnes idées, et je m'arrêterai là. Par exemple, le système de quête annexe, eh ben, tu vas sur le forum parce que les mecs ont vu des choses bizarres et tu vas enquêter. Ouais, du côté du réservoir, je crois que j'ai vu un ovni. Et alors tout le monde commence à freak out. Regardez, j'ai mis une image, l'image ne charge pas parce qu'on est sur Internet. 1999. Tu vois, c'est super. Moi, je trouve ça des super idées, ça.
C'est clair.
Pareil, le système de leveling est plutôt intéressant, mais il arrive vite à ses limites. Il y a des bons donjons dans le jeu qui sont pas mal. Notamment, on va visiter la psyché de plusieurs personnages qui ça fait vraiment d'excellents donjons. Mais c'est tellement contrebalancé par un rythme qui est aux fraises, parce qu'il y a tant de chargements, parce que les combats sont lents, parce qu'on comprend pas ce qu'on fait, parce qu'on a l'impression de pas progresser, parce que... Et c'est vraiment dommage. Du coup, c'est compliqué pour moi de conseiller Y2K. Et d'ailleurs, juste pour expliquer le titre, Y2K, en fait, c'est le nom qui était donné aux États-Unis au bug de l'an 2000. Ouais. Parce que Y2K, en fait, c'est Year 2000, Y2K. Et en fait, tout le jeu est sous la menace un peu crépusculaire, parce qu'on se dit que c'est l'an 2000. C'est la fin du monde, un petit peu, tu vois.
C'est vrai qu'à l'époque.
Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien. Ce passage-là est plutôt réussi, mais le moment justement du passage en 2000, moi, je l'ai trouvé super cool. Puis après, c'est nul. Enfin, juste après, il se replante. Enfin, il réussit des trucs, il se plante. Il réussit des trucs, il se plante. C'est dommage. Donc, Y2K, essayez-le quand il sera pas cher. Et seulement si vous aimez vraiment très fort les délires à la Earthbound, Persona, Shin Megami. Et quand il sera patché, il y a plein de trucs qui pourront être corrigés quand ils seront patchés. Donc, attendez quelques patchs. Peut-être qu'au moins les temps de chargement seront réglés.
Il est sur quelle bécane ?
Il est sur Switch, PS4, Vita, PC.
D'accord.
Donc, autant le faire sur une console portable.
Je l'ai pas fait, mais... Ça donne envie, que malgré tout.
C'est, en fait, je le trouve très intéressant dans son échec. C'est plutôt un échec,
c'est
mais ça. Il est très intéressant dans son échec.
C'est souvent intéressant les jeux échecs.
Et il sort sur Vita.
Ah, sérieux, c'est ouais. Ça, c'est important.
Ça fait très longtemps qu'il est, il est dans les tuyaux. Et ça coûte $20, voilà. Donc, essayez de vous y intéresser, mais n'en attendez pas trop. Voilà.
C'est ça.
Ouais. C'est
le moment.
30 heures à mettre dans
le warning, attention, quoi.
C'est le moment, après Y2K, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de Société. Salut Jérémy.
Salut Erwan. Alors cette semaine, je ne vais pas parler de Valeria Card Kingdoms, un jeu sorti en 2016 qui était vraiment très bien, un deck building. Non, je vais vous parler de leurs deux petits frères qui n'ont pas quitté mon sac depuis leur sortie il y a plus d'un an déjà. J'ai un gros sac spécial pour mes deux jeux de société, hein. Je ne parle pas de mon sac de tous les jours, hein. Faut pas exagérer. Hein. Le premier s'appelle Village of Valeria et vous allez voir, c'est un condensé light de plein de jeux qu'on aime. On a des cartes bâtiments dans ses mains qu'on peut utiliser de plusieurs manières. On peut construire ses bâtiments, on peut augmenter les ressources produites par le château. Elles pourront aussi servir de monnaie pour faire différentes actions. Et puis il y a des cartes aventuriers que vous pourrez recruter, qui comme les cartes des bâtiments pourront vous donner des bonus supplémentaires permanents ou instantanés au moment où vous les jouerez. Ce qui a vraiment d'intéressant dans la mécanique de ce jeu, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur décidera de faire une action, les autres joueurs pourront choisir de faire la même action gratuitement s'ils le peuvent. Le second jeu s'appelle Quest of Valeria. Il y a dans ce jeu plus de 80 cartes personnages. Lorsque vous les aurez dans vos mains, ces cartes vous serviront de monnaie pour recruter dans la taverne. Et puis les personnages que vous aurez recrutés vous permettront de compléter des quêtes qui sont disposées au centre de la table. Ils ont extrait la mécanique de quête de Donjons et Dragons Lords of Waterdeep pour en faire un jeu standalone. On n'a que deux actions lors de son tour, mais on peut enchaîner les combos de manière impressionnante. Par exemple, vous allez recruter un personnage qui va vous donner l'action quête. En réalisant cette quête, vous allez ensuite piocher trois cartes et recruter un personnage qui, lui, vous permettra de piquer une carte chez votre voisin. Parfois, les actions s'enchaînent un peu comme ça et ça peut devenir vraiment très jouissif. Ces deux jeux Village of Valeria et Quest of Valeria sont vraiment exceptionnels. Ce sont des fillers. Vous savez, ces jeux auxquels on joue en début de soirée quand tout le monde n'est pas encore arrivé, qui prennent pas trop de temps, qu'on peut boucler en moins d'une demi-heure. Ils sont assez simples à comprendre et à jouer et ils permettront aux nouveaux joueurs de visiter le monde des gamers. Dans les deux cas, on peut y jouer de 1 à 5 joueurs. Sur la boîte, il y a marqué à partir de 14 ans, mais moi je dis 10 ans, c'est bon. Ils ne sont pas encore disponibles en français, mais assez faciles à trouver en import, et puis il n'y a pas de texte sur les cartes. Les auteurs Rick Holzgrafe et Isaiah Vallejo, avec des illustrations sublimes de Dmitrievski. C'est édité par Daily Magic, et c'est du solide. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique de jeux de plateau, de jeux de cartes. Voilà. Bye.
C'est con. Elle était limite mélancolique cette fin.
Mais non, mais parce que je crois qu'il a eu un commentaire genre ouais non mais tu fais toujours tes conclusions. Moi j'aime bien tes conclusions Jérémy. N'arrête pas.
C'est un peu abrupt.
N'arrête pas.
Hein,
ça, non. plateau de cartes, voilà. Non, non, non. Reprends du poil de la bête.
Sois toi-même.
Allez, moi, j'aime bien quand tu tapes sur le jeu vidéo. À
évidemment,
chaque fois.
Évidemment.
C'est un peu genre la minute anarchiste au milieu du podcast. C'est cool.
Merci en tout cas. Merci Jérémy. À la semaine prochaine. Non, à dans deux semaines pour le coup.
Toi aussi, t'as le droit des vacances. C'est bien.
C'est ça. Eh bien, c'est le moment après 2007. Souvenez-vous, No More Heroes. 2010, No More Heroes 2, Desperate Struggle. Eh bien, on retrouve la licence made by Suda 51. Mm-hmm. C'est ça.
Hein, c'est ça, tout à fait.
C'est bien ça.
Exactement.
Et c'est Travis Strikes. Ah, j'ai jamais arrivé. Travis Strikes Again, No More Heroes. You wanna play? Let's play. I've been away a long time. Travis, touchdown. You murdered my daughter. What? The Death Drive Mark II. The Phantom Game Console. Alors, je ne vais pas répéter le nom. Voilà.
On l'a compris.
Travis. Appelons-le Travis. On l'appelle Travis. On l'appelle Travis.
Tu peux l'appeler TSA NMH.
Alors, est-ce qu'on resterait pas un peu dans la catégorie des jeux chelous?
Mais il n'y a que des jeux chelous quasiment aujourd'hui.
Ah bah oui, c'est marrant. Tu en parlais tout à l'heure. Je me suis dit,
c'est un peu le thème.
C'est le rouge de la semaine.
C'est le spécial chelou.
Ah ben oui. Il n'y a que Castlevania qui ne sera pas chelou aujourd'hui.
Non, c'est vrai.
C'est ça. Et Patrick, alors ton.
No More Heroes, oui.
On sait que tu as un.
Ah bah oui, moi je suis très attaché à cette. Cette franchise maintenant qui existe depuis plus de 10 ans, ça ne nous rajeunit pas quand même, hein. Qui est arrivé sur Wii avec ce côté décalé, qui s'amusait des codes du GTA-like, mais qui infusait vraiment beaucoup d'originalité, un aspect méta. Enfin bon, bref, on ne va pas refaire l'article
et en même
sur.
Et en même temps, on sortait de Killer 7 et pour Suda 51, c'était presque un jeu hyper classique.
Ah non, mais moi je suis d'accord, c'est du Suda un peu dilué, mais du coup ça c'est peut-être la bonne dose.
Oui,
de
voilà, c'est
exactement
ça.
C'est peut-être là où il est le meilleur, c'est quand il s'accapare un genre et qu'il en fait quelque chose qui lui appartient complètement, en fait, paradoxalement. Donc moi j'avais un petit peu peur de ce volet qui a été annoncé, je crois, au détour d'un Nintendo Direct, il me semble, où ils avaient montré. Bon, alors tout ça, on avait compris que c'était un peu un projet entre deux No More Heroes canoniques, on va dire. Hein. C'est pas No More Heroes 3. On sent que c'était un projet à budget plus serré, plus modeste, avec une sorte de compilation de différents jeux. Et moi, j'avais un petit peu peur. Je me dis, oh là là, ça sent un peu le titre qui est sorti comme ça, un peu pour être un peu présent, réactiver la licence en attendant de refaire un No More Heroes 3.
C'est peut-être un test pour voir si la licence a encore un sex appeal un peu, non ?
Aussi, oui, parce que c'est vrai qu'elle est en sommeil depuis quand même un petit moment.
Et sur la Switch.
Et hein, c'est sur la Switch, donc je pense qu'il y a aussi, il y a aussi l'opportunité d'arriver sur une console qui marche bien, donc j'avais un petit peu peur. Et moi je m'amuse bien avec, j'avoue que je m'amuse bien avec ce jeu. Alors que comment expliquer, donc on retrouve donc Travis, ce personnage de la saga No More Heroes, qui là a affaire avec une console mythique, qui une espèce de console bizarre qui permet de se plonger dans des jeux différents. Avec des univers complètement différents.
Déjà, c'est une console qui prend des cartouches en forme de boule.
Ouais, et qui a une marmite posée dessus. C'est complètement barré.
C'est Death Drive Mark II.
C'est une compilation non-stop de clins d'œil à la pop culture des années 80-90. Alors quand je vous dis ça, tu te dis moi ça me touche évidemment, parce que ce sont évidemment des périodes qui me
ça touche, mais ça fatigue quand même un petit peu en ce moment. Alors les 80, comme bon.
Non,
c'est pas
non.
Mais toi on sait, mais d'une manière générale.
Étonnamment, je trouve c'est tellement, enfin c'est vraiment bien fait, enfin c'est fait vraiment
il y a la touche quand même de Suda, je trouve. Il y a une touche toujours avec un côté pince sans rire, qui s'amuse des codes, qui les injecte dans tous les sens.
En fait, à chaque fois qu'on lance une cartouche, il y a une intro là où tu sais il tombe là en spirale. Plus presque années 70 finalement ce truc.
Ouais, en fait moi ce que je trouve intéressant, c'est que donc on a 5-6 jeux différents, des gameplay. On n'est pas du tout dans le No More Heroes canonique qu'on connaissait sur Wii ou sur les adaptations.
On n'est pas sur l'open world.
On n'est pas sur de l'open world, on est vraiment sur une collection de gameplay différents qui reprennent des principes. Alors, ce que j'avais cru comprendre en voyant une interview de Suda, c'est qu'en fait, il avait repris des maquettes de jeux qu'il avait développées dans son studio, qui étaient restées en stand-by et qu'il avait pu intégrer comme ça dans ce concept de console imaginaire avec différents gameplay donc dans lesquels Travis est injecté. Et moi, je trouve que ça marche plutôt bien. C'est-à-dire qu'on on retrouve du beat'em all, on retrouve des jeux de, comment dire, un peu de puzzle avec des rues à reconstituer en vue aérienne. On a des, en fait, c'est bardé de renvois des univers de jeux.
En fait, il faut être clair, il y a un gameplay central qui est le beat'em all.
Le beat'em all qui reste le fil rouge effectivement.
Et autour, il y a des
et l'autre fil rouge, voilà. Évidemment, c'est le l'aventure graphique. Non interactive avec des textes qu'on déroule. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que c'est un jeu un peu somme. J'ai l'impression que Suda voulait faire une somme de l'histoire du jeu vidéo. Alors ça paraît comme prétentieux aussi, mais il y a un peu de tout. C'est-à-dire qu'on retrouve à la fois du jeu d'aventure textuel de couleur monochrome. Hein. C'est-à-dire qu'il y va franchement, c'est parfois un peu long, mais il y a ça, c'est convoqué. On retrouve évidemment des passages en full motion vidéo. C'est rare hein, sur Switch quand même. Il faut le dire. On a un passage. Il y a un passage, mais qu'on n'oublie pas en général. Hein.
Oui, je suis d'accord.
qui marque bien.
On a ça,
on a de la 3D, il y a une cinématique aussi en 3D, vraiment des débuts crados de la 3D, des débuts genre PlayStation. Donc on sent qu'il convoque plein de toute l'imagerie de l'histoire du jeu vidéo, tout ça est mélangé avec des séquences de gameplay, comme on disait, qui reprennent du beat'em all, du puzzle. Alors, le défaut, je trouve que c'est parfois, on sent qu'il tire un peu à la ligne. C'est-à-dire qu'il y a, je trouve que moi, j'aime bien l'idée comme ça de passer sur différents genres de jeux, comme ça, de les convoquer. C'est plutôt bien fichu. Je trouve qu'il y a des moments où on va se retrouver devant une infusion en intraveineuse de Pac-Man. On se retrouve d'un seul coup à rejoindre une séquence de Pac-Man en pleine partie. On se dit, mais ça, c'est ça. Ou tu vas retrouver d'un seul coup dans un endroit, tu vas avoir un flash, je veux dire, mais ça, c'est le manoir de Resident Evil. Je suis en train de traverser ça. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as une convocation comme ça de gameplay assez basique, mais avec toute l'imagerie d'un pan d'histoire du jeu vidéo qui fait que quand tu t'intéresses un petit peu à l'histoire du médium, tu as plein de clins d'œil comme ça qui te parlent, tu dis tiens ça c'est marrant, puis tu retrouves toujours ce décalage. Le quatrième mur, il est même plus brisé, il est piétiné à longueur de temps pendant tout le jeu, c'est-à-dire qu'on te parle du jeu, on te parle des mécaniques de jeu, on te parle du moteur Unreal, à quoi il sert.
Ad nauseam, hein,
beaucoup, c'est très insistant. Et le jeu, c'est peut-être son défaut, c'est qu'il tire vraiment à la ligne. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des bonnes idées de succession de gameplay différents. Le problème, c'est que ça a tendance à s'éterniser. Je pense notamment à la séquence de puzzle comme ça où on est en vue très aérienne de très haut qui dure sur 9 niveaux.
J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux.
C'est long. Et comme je disais, les séquences, moi j'adore le visuel de visual novel, mais de la préhistoire du visual novel où t'es en monochrome. Moi ça me touche parce que moi tu me mets des pixels verdâtres sur un écran noir, ça me touche. Et je pense que
on a eu Obradine, c'est bon quoi.
Non mais c'est pas pareil.
C'est pas la même chose. C'est pas le même projet.
Mais surtout,
c'est pas la même chose.
Mais tu disais que c'était long, mais le premier passage en VN. Mais enfin, vas-y, fini. Puis j'arrive.
Après, il faut dire quand même que c'est entièrement traduit en français.
Oui, c'est
ce
vrai.
Qui est même plutôt surprenant parce que c'est vraiment un jeu petit budget. Enfin, c'est vraiment entièrement traduit en français, plutôt bien traduit. Je trouve qu'il y a eu un vrai travail et on le voit notamment. On peut débloquer des pages.
C'est faussement par-dessus la jambe. Mais c'est,
ouais,
mais
c'est,
bien,
c'est, non, mais c'est bien fichu. C'est, non, non, je trouve que la traduction est vraiment maligne et plutôt bien fichue.
C'est ça. C'est, en fait, ils ont fait comme s'ils avaient traduit par-dessus la jambe, mais en vrai, c'est bien fait. Tu vois.
C'est bien fichu. Ouais. Puis t'as des pages entières, tu débloques des journaux, en fait. Mais genre des consoles plus des années 90. Quoi,
avec c'est super. Ça, c'est un des meilleurs points du jeu.
Avec des tips, des tests écrits à l'ancienne, tu vois, avec vraiment les encadrés. Ça, je trouve que c'est bien fichu.
En fait,
tu sens qu'il y a beaucoup de travail. Il a l'air comme ça, un peu fait par-dessus la jambe, ce jeu. Mais quand tu t'y plonges, que tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'il y a. Je pense qu'il y a une vraie réflexion dedans. Il y a un vrai point de vue. Il y a le point. Je te laisse.
Non, vas-y.
Mais tu vois, tu sens le point de vue de Suda 51. Il est là. Tu sens. Enfin, tu l'entends pendant toute la partie. Tu sens qu'il est là, qu'il veut parler de son histoire du jeu vidéo. Il fait un appel du pied, évidemment, à No More Heroes 3, qui est cité à plusieurs reprises. On sent qu'il trépigne de pouvoir le faire.
Il l'a dit dans une interview. Il le fait. Il va le faire.
Il va le faire. Et alors, tu sens
à la fin, il insiste lourdement sur le fait qu'il va le faire.
Tu sens que c'est un projet aussi qui est là pour réactiver la licence, préparer à No More Heroes 3, qui, encore une fois, a besoin. Je pense que la licence avait aussi peut-être besoin d'être remise en avant parce que ça date un petit peu. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'opportuniste et de vivre vide. Et au contraire, moi, je me suis régalé avec les clins d'œil, le gameplay qui est pas toujours très fin, mais qui...
Pas toujours très fin?
Non, il est plutôt basique. Mais il y a des trucs, moi, que j'ai bien apprécié. Tu sais, les super pouvoirs que tu débloques pas mal de pouvoirs. T'as des systèmes de fichage des pouvoirs sur les touches de la manette et que tu peux enregistrer, etc. Tu sens que ça a été réfléchi. Enfin, là, c'est pas un jeu... Voilà. Je sens que tu grognes.
Non, oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi sur tout l'aspect nostalgique. C'est fun. Enfin, c'est fun de voir ça. C'est marrant quand t'arrives dans une nouvelle cartouche parce que t'as une petite cinématique d'intro.
T'as toujours envie de voir sur quoi il va aller dans le prochain. Ça, c'est clair.
À chaque fois, tu lances la cartouche. Et... Bon, ça va être quoi ton intro à con? L'intro du manoir, elle est hallucinante.
Ouais, c'est excellent.
En 3D moche, mais vraiment très moche. Vraiment époque PlayStation.
Ah oui, c'est ça. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment la PlayStation première génération.
Avec une histoire ridicule à base de révolution ratée.
Il s'est fait plaisir.
Ouais, le mec se fait engouffrer. Enfin, bref,
c'est ridicule.
Il construit un méca en bois.
En même temps, je sais pas ce que t'en as pensé. Alors, il cite pas Resident Evil, mais t'as des petits.
Mais évidemment.
T'as des petits. Des petits stimuli visuels. Tu dis, bah, c'est ça.
C'est à la fois subtil et pas subtil. C'est-à-dire que tu vois évidemment les références.
Entre les deux, ouais.
Mais elles sont tellement mélangées les unes dans les autres que finalement, ça donne une espèce de gloubi-boulga de références qui te donne plutôt une saveur. Une saveur, mais qui n'est pas référençable vraiment immédiatement. Tu fais, ah oui, bah, ça, c'est cette période-là avec tel genre de gameplay. Ouais, je vois très bien ce que tu veux faire.
C'est très baroque. C'est un jeu ultra baroque. Et en fait, c'est une espèce de burger, comme un burger avec une. Mais, tu vois des tranches comme ça qui se...
Mais pardon Patrick, mais le jeu quand même est construit autour d'un gameplay qui est ultra léger.
Ultra basique,
ultra répétitif, ultra casse-couille, ouais. Enfin sérieusement, il y a des moments, ça dure...
T'as des trucs plus réussis que d'autres,
ça dure
clairement.
Des plombes mais tu vas voir le dernier niveau, la dernière cartouche, qui est une ode à Hotel Miami.
J'ai pas fini, toi tu l'as fini hier soir, tu me disais, donc je vais pas me spoiler la fin.
C'est horrible, t'es dans des espèces de niveaux, ça ressemble un peu à comme si on était dans des niveaux de Pac-Man, encore une fois, machin, mais c'est tout blanc, en plus, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment donné, il a fait, tiens on va faire ça va être rigolo, puis je vais rajouter cette mécanique du gameplay, comme ça va devenir insupportable. Par exemple, dans la phase dans la ville, là où tu dois tourner les rues pour pouvoir les rendre, la tête qui te poursuit, c'est chiant, faut pas le faire, ça c'est... Tu te fais poursuivre par une tête qui traverse les murs et du coup t'as envie de réfléchir, déjà t'es en mode comment je vais faire pour arriver là-bas, et t'as une tête qui presse genre gna gna, je vais te manger, du coup t'es obligé d'aller à l'autre bout faire du backtracking pour...
Mais en fait,
t'attires la tête à l'autre bout de la ville pour éviter qu'elle te mange.
C'est vrai, quand elle arrive tu dis ah non pas ça, puis tu t'attends
tous
les niveaux,
sauf que elle arrive niveau 5 et il te reste 5 niveaux à tirer et t'es en mode pourquoi t'as fait ça Souda, je t'adore mais pourquoi t'as fait ça sérieusement.
Mais en fait avec lui je me pose toujours la question, est-ce que c'est une maladresse ou est-ce que c'est côté, je critique la mécanique de ces choses-là que je réintègre.
Oui, mais comme pour Y2K, quand tu critiques un truc, fais-le pas au détriment du joueur, s'il te plaît, quoi. Sinon, c'est compliqué. Et vraiment, ce système de combat, encore une fois, t'arrives à la fin du jeu, tu te prends toujours autant de baffes et tu ne comprends pas pourquoi. Et c'est compliqué de sortir un Beat'em All 2D vu du dessus comme ça, après Hotline Miami, après Fury. C'est marrant, deux jeux dont on peut porter des t-shirts dans le jeu, ça. C'est vraiment étonnant.
Ah, mais on sent qu'Hotline Miami, il a une ferveur absolue, il connaît bien les développeurs, a priori.
Le dernier chapitre est uniquement consacré à Hotline Miami. Je vous le dis même, et pour vous éviter la déception que j'ai eue, je m'attendais à ce que le boss de fin soit Jacket.
Ah mais ne spoil pas, attention. Hein,
ce n'est pas Jacket. Oui mais c'est une déception.
C'est marrant,
je vous évite une déception.
Même en termes de thématique, le jeu, tu sens qu'il alterne entre du rétro et du vrai rétro old school où il revient vraiment sur les racines du jeu vidéo et toute une époque. Oui. Et en même temps, il se projette sur les indés d'aujourd'hui. Bah, tu sens qu'il est coincé un peu entre deux époques. Ce qui le rend aussi intéressant, t'as l'impression d'avoir ce regard d'un auteur et un peu comme, enfin moi Swery qui est pareil, ce regard moi d'un japonais très orienté vers la culture occidentale, je trouve ça fascinant. Souris, pareil.
Mais surtout,
il passe son temps à citer des réalisateurs ou des game designers occidentaux. Et je trouve que ce regard d'un japonais sur le cinéma ou le jeu vidéo occidental est toujours fascinant.
Mais pas que ça. Mais Souda 51, je suis sûr qu'il est deg de pas être américain et de pas avoir 15 ans de moins édité par Devolver.
Non, sérieusement. Je pense pas que ce soit deg.
Je vais dire quelque chose. Il fait tellement de lèche à Devolver dans ce jeu, c'est hallucinant. Genre, c'est dans le texte, c'est dans les jeux. Alors, il y a d'autres jeux
Devolver, il a qu'à frapper à la porte, je suis sûr que Devolver l'édite.
Mais je suis sûr, mais va te faire éditer chez Devolver, Souda, c'est exactement ça. En fait, j'ai l'impression qu'il veut faire partie d'une vague dans laquelle il n'a pas trop l'impression d'appartenir, alors que moi je trouve qu'il est plutôt compatible avec.
Ouais, complètement.
Mais arrête de faire cette espèce de compil de
Rappelons que No More Heroes, c'est 2007. Il était là il y a très longtemps. Il a cette vision, tu vois, pop, déconnecté, quatrième mur, critique des systèmes de jeu. Il est là depuis très longtemps.
Mais là, on a quand même, j'ai l'impression qu'on a, une pile de clins d'œil. On a une pile de clins d'œil, de références, de trucs qui sont sympas, mais dans lequel il a mis une espèce de gameplay un peu chiant, avec aucun level design.
Alors, un truc pour conclure, peut-être. Et moi, c'est un vrai jeu pastiche. Et comme on le faisait, et moi en fait en y jouant, ça m'a beaucoup rappelé tu vois, Mel Brooks.
Oui, mais
Mel Brooks,
pastiche à 30€, c'est un peu cher.
C'est exactement ce que, t'as quand même pas mal d'heures de jeu dessus. Enfin, tu vois,
Alors, des heures comme ça, je préfère en passer moins.
Moi, je regrette pas du tout mon achat, tu vois. J'assume complètement et je trouve que le gameplay fait plutôt le boulot. Et encore une fois, ça me rappelle Mel Brooks. Ce que faisait Mel Brooks à l'époque, c'était ça, c'était du pastiche. Tu vois, ça m'a rappelé Le Grand Frisson où il parlait de Hitchcock, ou évidemment La Folle Histoire de l'Espace, où pareil, il s'amusait à s'imprégner d'un genre et il déclinait sur une quantité comme ça de clins d'œil, il questionnait les mécaniques.
Sauf qu'autour de clins d'œil de Mel Brooks, il y avait une vraie comédie derrière. Tu vois ce que je veux dire? Là, autour des clins d'œil de Souda, il y a un jeu qui est ultra bancal derrière. Et c'est vraiment dommage.
Je trouve qu'il y a une générosité dans les univers. Tu sens qu'il a tapé dans tous les sens. Et moi, je trouve que ça marche plutôt bien.
Tu parlais
bien.
De burger, les frites sont super, mais le burger est vraiment. Sauf que j'ai payé 20€ mon burger et voilà.
Et d'ailleurs, la parenté avec Mel Brooks.
Il faut toujours finir sur une image. Tu vois,
La parenté de Mel Brooks est d'ailleurs assumée. J'avais retrouvé une interview de Souda qui parlait de Mel Brooks. Il évoquait l'impact de Mel Brooks sur la création de No More Heroes à l'époque.
Et pour conclure, la 8e. Dire, tu parlais du VN tout à l'heure, donc il y a des longues phases de texte. Et dans le jeu, il dit non, mais on a été trop long quand même sur le premier chapitre du VN. On va perdre des points sur Metacritic. Oui, Souda, si t'es conscient de ça, pourquoi tu nous l'infliges?
T'énerve pas.
Et en fait, moi, je trouve qu'il est jamais prétentieux. En fait. Voilà, ce jeu, je trouve qu'il n'est pas prétentieux. Contrairement au jeu dont tu parlais avant, je trouve qu'il ne tombe pas là-dedans parce qu'il assume complètement son côté.
Il sait faire l'autodérision Souda, ça fait toute la différence.
Il sait qu'il se plante sur certains trucs et j'ai l'impression qu'il le dit clairement. Il le dit, ce passage-là, je me fous un peu de ta gueule parce que je le mets là. Tu vas aller chercher le passage sur les donuts et le café dans le manoir de Resident Evil. Je me disais, mais.
Chers amis.
Ah ouais, quand même. Tu vois, il n'y a pas de prétention et je trouve que tu le ressens en tant que joueur. Il y a un côté.
Allez, moi, je m'arrête là.
Mais merci. Non, c'était formidable. Franchement, alors moi, je précise,
je le valide.
Je n'y ai pas joué, j'aime beaucoup ce débat. Ça a posé plein de très très bonnes questions. Il y aura moins de débats sur le prochain, je pense, puisque on revient en 1993 et 1997 avec des jeux qui n'ont pas changé depuis, qui restent des références, mais qui ressortent quasiment à l'identique dans Castlevania Requiem. Castlevania Requiem, donc Castlevania Rondo of Blood 93 l'incontournable, le surtout de Castlevania, Castlevania Symphony of the Night 97. Et donc c'est un pack combiné.
C'est une compile sortie en démat sur PS4. Je pense que ça va peut-être un petit peu rejoindre notre long débat sur Onimusha la dernière fois.
Ça va être la possibilité pour
on va mettre nos gants et faire attention. On retombe un petit peu dans le même schéma, c'est-à-dire qu'on prend des titres importants dans l'histoire du jeu vidéo et on les rend accessibles facilement aujourd'hui, encore une fois, en deux clics sur un store. Là, c'est vendu une vingtaine d'euros pour les deux jeux. Je trouve que c'est pas du vol. Je pense qu'on va retomber sur nos longues discussions. Parce qu'on est quand même sur deux titres vraiment très importants dans l'histoire de Castlevania. Donc, une série lancée en 86, qui est encore là aujourd'hui, qui a eu des hauts et des bas. Comme tu disais, Rondo of Blood, il est sorti en 93 sur le lecteur CD de la PC Engine à l'époque. On considérait comme un des grands titres du versant old school des Castlevania. Donc, avec un gameplay plutôt relativement proche des racines de la saga, assez raide, hein, quand on le relance aujourd'hui, il est assez impitoyable, hein, j'en ai pris plein la tronche, franchement, en y rejouant, j'ai un peu morflé. Alors c'est marrant parce que donc portage quasi à l'identique, il n'y a quasiment pas d'options, c'est un des bémols vraiment de cette compile, c'est qu'il y a peu d'ajouts ou très peu. Il y a un système de lissage des graphismes parce que parfois ça pique un petit peu. Mais bon, ça, c'est... J'avoue que j'ai un peu mis lissage parfois. C'est pas très bien, mais j'avoue que les pixels piquaient un petit peu parfois. Ouais, ça m'est arrivé. Et c'est rare que je le fais. Hein. C'est très rare que je le fais. Là, j'avoue qu'à un moment, je l'ai fait. Non, il n'y a pas beaucoup d'ajouts. Il n'y a pas d'ajouts encyclopédiques. Ça, c'est vraiment le truc que je regrette à chaque fois. Mettez-nous des artworks, mettez-nous des interviews, mettez-nous du... Ouais. Là, on n'a rien à grignoter, encore une fois. Un petit truc marrant, c'est des sons qui sortent de la DualShock 4. Ça a jamais été ou très peu exploité par les développeurs. Et c'est marrant d'avoir des... Tu vois, t'as un bruit de choc, ça sort de la manette. C'est une blague,
oui,
mais...
Oui, voilà, oui, le faisait en 2007. Hein,
ouais, mais moi, j'aime bien. C'est le genre de petite friandise que j'aime bien. Donc, le jeu de 93, lui, voilà, il est plutôt dans l'ADN d'origine. Et puis, Symphony of the Night de 97, sorti sur PlayStation. Alors, lui, tu vois, il aurait été très bien dans la PlayStation classique, hein, la fameuse mini PlayStation. Mmh. Il aurait eu toute sa place, justement, parce qu'il fait vraiment partie du Hall of Fame de la console. Alors, il est très intéressant, ce jeu, parce que lui, il a étonnamment bien vieilli. Je trouve qu'il est très impressionnant à tous les niveaux. Au niveau conceptuel, il a une date hein, dans l'histoire de Castlevania, parce qu'il remet tout à plat, en fait. On incarne cette fois Alucard, donc un nouveau personnage qui prend, justement...
Erwan m'a regardé, parce qu'il savait à quoi je pensais exactement à ce moment-là.
Ah bah allez-y, développez les gars, là.
Erwan.
Quoi, Corentin?
Ouais. T'as remarqué que Alucard à l'envers, ça fait Dracula?
Non.
C'est dingue, non?
Oh, le truc de ouf, pardon.
Vous spoiler, c'est terrible, là, les gars, attention. Hein. Spoiler un jeu de 97. Non, bah oui, donc il est toujours impressionnant aujourd'hui. Hein. Tu le lances en 2019 sur ta PS4. Je trouve que le jeu, bah, il a vieilli graphiquement, mais il en impose, quoi. Il en impose avec ça. La musique, hein, signée Michiru Yamane. C'est une musicienne de renom qui a un track listing de fou sur son CV. C'est incroyable, le cachet musical du jeu, plus que les graphismes, c'est vraiment impressionnant. Et puis surtout, c'est l'arrivée d'une vraie composante RPG dans la saga. Et c'est vraiment incroyable de voir comme le jeu était pionnier à l'époque. On a vraiment l'association de... Ah, je vois qu'il y a des grimaces.
Non, mais en fait, je suis d'accord avec toi que c'est un vrai morceau de l'histoire du jeu vidéo de 1, de l'histoire des Castlevania de 2. Après, je trouve qu'il invente rien, mais il arrive à combiner des éléments.
Il mixe, je trouve qu'il y a fusion.
Il invente une fusion intéressante.
Il hybride
de manière intéressante des éléments de Metroid avec les éléments de Castlevania.
Bien sûr, mais tout comme Onimusha, on en parlait la semaine dernière, il amenait de l'action, plus d'action dans son gameplay. Là, on a cette composante RPG qui fait qu'on va... le genre Metroidvania va se développer, ça va devenir une sorte d'étiquette d'avoir.
Symphony of the Night est aussi important pour Castlevania que Super Metroid pour Metroid, que Mario 64 pour la série des Mario, Ocarina of Time pour Zelda.
Dans la forme, on reste sur un platformer à la Castlevania, c'est l'ADN, mais quand même beaucoup plus souple. Il y a une vraie différence entre les deux jeux. Quand on rejoue aux deux comme ça dans cette compile, waouh, la souplesse de Symphony of the Night qui est beaucoup plus. Plus agréable à jouer, tout simplement.
C'est moins raide.
C'est beaucoup moins raide. Donc, ça reste du platformer, mais il y a une vraie composante RPG qui se développe avec des points à développer, un inventaire à gérer, des pouvoirs, etc.
Les
et puis revisiter des endroits qu'on avait fait auparavant, mais avec de nouveaux pouvoirs. Donc, ça reste un monument, ce jeu. Ça reste un grand, grand jeu qui a très bien passé l'épreuve du temps. Encore une fois, on va regretter qu'il n'y ait pas eu plus de soins sur le remaster, sur des ajouts, sur des apports. On retrouve un peu les jeux tels quels. Alors, certains sont plutôt pour parce que ça nous permet de retrouver le jeu dans son jus. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a changé de gabarit de télévision en général. Mmh. On est sur des écrans beaucoup plus grands. Les pixels piquent vraiment. Et je trouve que parfois, ça ne rend pas toujours justice au visuel de l'époque. D'où, moi, j'ai essayé de mettre des filtres, etc. Mais on retrouve pas forcément exactement le côté resplendissant des jeux tels qu'ils pouvaient les avoir dans les années 90. Mais encore une fois, c'est des vrais monuments. Comme tu disais, une vingtaine d'euros. Bon, moi, je trouve
Castlevania.
Que quand on s'intéresse à ce genre de jeu, ça les vaut. Bon, il y aura sûrement une promo à un moment ou à un autre qui permettra de les avoir à moindre coût. C'est toujours bien de les remettre à disposition facilement.
Je suis très content parce que c'est vraiment un jeu que j'ai pas encore fait et j'aimerais bien pouvoir faire un jour. Il y a une sortie. C'est sur PC ?
PS4.
Pour moi, c'est PS4. Hein. Ah. Je suis pas sûr que ce soit sur d'autres machines à vérifier.
Il est pas sur Steam.
Mais s'il sort un jour sur PC, je serais heureux de pouvoir le faire, même s'il pique un peu les yeux.
Parce que je sais pas comment on les a aujourd'hui. Ils étaient sortis sur PSP. Je crois qu'il y avait des compiles, des choses. Mais bon, c'est pas forcément très facile de mettre la main dessus, je crois, aujourd'hui.
Allez, on va se garder quand même un petit peu de temps pour le dernier jeu. Donc Castlevania Requiem sur PS4. Et on va terminer cette émission avec un jeu qui est sorti là au moment où on enregistre et qui s'appelle, c'est de l'écurie Devolver et ça s'appelle Picou Nico. Alors, on est sur du puzzle. On est sur du puzzle.
Puzzle platformer, ouais.
Narratif.
Oui, ah oui. Bah, c'est l'intérêt principal du titre.
Le puzzle platformer narratif.
Picou Nico, donc c'est un platformer dans une 2D toute mignonne, avec plein d'aplats. Il n'y a pas de nuances dans ce jeu, c'est uniquement des jolies formes, toutes simples.
Ça fait penser à ces trucs qui est la PSP là.
Le Coroco. Ou Sniper Clips aussi récemment. Ça fait un peu penser à ce genre de graphisme. On incarne.
Ah, c'est un nom intéressant.
On incarne la bête. Non, mais il s'appelle Picu, je crois. Bref, parce que dans le mode multijoueur, on joue Picu et Nico. Enfin, bref. Donc, on incarne la bête. Enfin, on se réveille dans une grotte. On sort de la grotte. Et en fait, il y a une légende qui dit qu'un jour, la bête va sortir de la grotte. Donc, oh non, c'est la bête! Voilà. Alors qu'on est juste un. On n'est pas du tout impressionnant. On est une boule rouge avec des pattes, quoi, grosso modo. Donc, on se fait capturer par les gens du village. Les gens du village nous disent c'est super parce qu'il y a un monsieur. En fait, ils nous volent nos récoltes et ils nous donnent de l'argent gratuit. Et ça, c'est bien, l'argent gratuit. Voilà, c'est le plot. Donc, les dialogues sont absolument débiles, mais dans le très bon sens du terme. C'est ultra bien écrit.
C'est chelou, quoi.
C'est chelou. Là, je t'ai dit que c'était, un petit peu le truc. Mais là, c'est chelou. En fait, c'est naïf. Enfin, en fait, c'est un peu comme. Enfin, je sais pas comment dire. C'est une écriture à la fois très moderne, un peu enfantine, très adaptée aux réseaux sociaux. Voilà. Enfin, genre, il y a des réactions complètement anticlimatiques de certains personnages. Mais en même temps, elles sont très naturelles. C'est-à-dire que, alors, on a ce personnage-là qu'on incarne, qui a ses jambes. Et ses jambes, en fait, on peut mettre des coups de pied. Hein, dans l'ensemble, on met beaucoup de coups de pied dans ce jeu. Et on peut mettre des coups de pied aux personnages. Et genre, les personnages, les PNJ que tu croises, tu peux leur mettre des coups de pied. Ils vont faire ouais, arrête, s'il te plaît. Enfin, tu vois, genre, c'est le genre de dialogue. Tu vois, bon.
C'est hashtag cool.
C'est hashtag cool. Mais en même temps, le jeu, il ressemble énormément à l'un de ses créateurs qui est Rémi Forcadell, que vous pouvez retrouver sur Twitter sous le nom de Sandwich Cool. Vous pouvez aussi retrouver ses œuvres sur son site internet Sandwich Puissant. Je vous incite à aller voir ça. Voilà, donc vous voyez un petit peu le genre du monsieur qui est très ironique, mais en même temps, ironique mignon, qui se prend pas du tout au sérieux. Il a fait un jeu où faire des hot dogs, où glisser des pains dans des hot Doc par exemple. Donc on est vraiment dans cet esprit-là et en même temps on sent que le jeu a un peu envie d'avoir un message un peu plus sérieux, notamment sur cette histoire d'argent gratuit, peut-être qu'il y a une critique du consumérisme, machin. Un truc assez classique finalement, mais qui aurait pu être bien amené dans une histoire un peu sympa, un peu mignonne, avec des exemples un peu crétins, mais en même temps qui marchent bien. Donc là en l'occurrence on a un monsieur avec un haut de forme. Très subtil. Un monsieur avec un haut de forme qui donne cet argent gratuit en volant du maïs d'un côté, qui vole du bois de l'autre, dans trois villages différents et qui vole l'eau d'un lac dans un troisième village. Et nous, en fait, on arrive dans les villages et on va régler les soucis des gens. Donc, on nous donne des quêtes, tout ça sur la base de aller chercher un objet pour l'amener à un autre personnage, réussir des petites phases de plateforme, résoudre des puzzles en poussant des boules sur des interrupteurs qui vont ouvrir des portes, voilà. Dans l'ensemble, c'est plutôt solide. Il n'y a rien de très innovant là-dedans, à part peut-être la physique des jambes du personnage ou alors la physique générale des objets. On n'est jamais perdu, c'est très bien amené, c'est très solide, c'est très voilà. Il y a pas grand-chose à dire en fait sur le jeu, qui est assez pas irréprochable, parce qu'il y a des moments où on peut se retrouver coincé un peu bêtement à cause de la physique du jeu, mais tout a été pensé quand même pour pas que ça soit trop bloquant, parce que on voit qu'il y a des moments où il y a des petites encoches. Je te dis pourquoi ils ont mis cette encoche. Ah mais oui, c'est pour éviter que la boule se bloque. Donc on sent que le jeu a été playtesté, on sent que le jeu a été fait quand même pour qu'il soit pas bloquant et que soit pas frustrant, voilà. Il y a quelques phases de plateforme à un moment donné, elles sont plutôt optionnelles, mais les quelques phases de plateforme sont un peu poussives, je vais dire. Parce que la physique du jeu n'est pas faite pour ça, la physique du jeu est vraiment faite pour du puzzle, et ils te mettent des phases de plateforme. Et par exemple, le personnage n'a pas de nuancier de saut particulièrement, c'est-à-dire que nuancier de saut, ça veut dire que plus vous tenez votre touche et plus vous allez sauter haut. Il n'y a pas vraiment ça, donc votre personnage il flotte un peu, donc c'est un peu embêtant des fois. Les phases de plateforme sont pas très très bien amenées, mais bon, elles existent pour ceux qui veulent vraiment aimer ça. D'ailleurs, toutes ces phases puzzle plateformes sont purement gameplay, sont déclinées dans un mode coop. On peut jouer à deux, il y a une dizaine de niveaux. Ça a le mérite d'être là. Hein, oui. On peut jouer à deux. J'ai joué à deux avec ma copine. C'était très bien. On a bien rigolé pendant une petite demi-heure. Y a aussi un petit mini-jeu de babal qu'on peut faire. Et puis on finit le jeu. Le jeu est très court. Le jeu dure bien 2h30, 3h. C'est pas énorme. Et surtout, on finit ce jeu. On a passé un bon moment. On a vraiment, j'ai pas cité, mais il y a aussi les musiques de Callum Bowen qui sont cool. C'est ce qu'on a entendu là dans le trailer. Il a aussi participé à Y2K et qui sont toutes vraiment adorables. C'est très mignon. Ça fait des petits pouet-pouet de temps en temps, mais en même temps, musicalement, c'est très bien fait. Mm. C'est vraiment chouette. J'ai découvert là il y a pas longtemps ce Callum Bowen. Il fait des super musiques. Je vous recommande d'aller jeter un œil sur son Bandcamp, voire même d'acheter l'OST si ça vous plaît. Mais voilà, on finit ce jeu avec un sentiment. On aurait pu avoir un truc vraiment plus cool en termes de narration. C'est sympa, c'est drôle, tu vois, mais c'est un peu vain aussi. Y a une critique du capitalisme, de consumérisme, mais elle aurait pu être mieux amenée, elle aurait pu être plus profonde. On ressort de ça en fait, bon, j'ai passé un bon moment, mais je vais aussi rapidement oublier ce jeu.
Un petit côté de légèreté, alors qu'on aurait aimé un truc un petit peu, peut-être un peu plus engageant, en fait.
Ouais, un peu plus engagé même. C'est ce qu'on aurait pu faire, un truc vraiment stupide. Et stupide, rigolo, adorable, et en même temps qui fait un tout petit peu, qui pousse la réflexion un tout petit peu plus loin que simplement consommer c'est mal, la surveillance c'est mal, ce genre de choses. Là, on sent qu'il y a un début de quelque chose, qu'il y a des pistes qui sont posées, tu vois, mais qu'on n'a pas osé aller plus loin. Et je trouve ça dommage parce que ce genre d'exemple, et je vais encore citer Mother parce qu'on est dans le. Voilà, mais par exemple, Mother 3 le fait très bien ça. Il arrive à poser un univers très mignon, très sympa, et il met des enjeux qui le dépassent complètement, mais qui du coup, marche super bien parce qu'il y a une espèce de quand ça se confronte il y a une dissociation qui se crée et du coup qui fait pousser la réflexion.
Une dissonance,
merci beaucoup. Et je me dis que Piconicourt était un bon terrain pour faire ça. Je me dis, c'est quand même dommage, ce petit jeu un peu court, très bien écrit, très bien réalisé, très bien mis en scène, tout ça, qui ça pousse pas le délire plus loin. Je me sens un peu frustré, d'autant que je l'attendais depuis longtemps aussi. Alors c'est peut-être aussi parce que je l'attendais depuis longtemps que j'ai ce sentiment-là. Mais après, je ne peux pas le déconseiller. Mmh. C'est un jeu, il coûte pas très cher, il coûte 11€. C'est un bon moment à passer, vous allez bien rigoler parce que les dialogues sont vraiment très bien écrit.
Cool, enfin, le hashtag cool, c'est un jeu
qui est cool en minuscule, tu vois, il y a même pas de je suis un peu frustré parce que j'en attendais peut-être un poil plus au-delà simplement de l'aspect ironique.
Sur Switch PC
sur Switch c'est vraiment cool parce qu'on peut y jouer dans le métro et tout ça, et comme ça prend pas trop de temps, qu'il est pas très cher, je peux difficilement le déconseiller, quoi.
C'est ça. Et bien merci chers amis pour ces jeux, pour ces programmes, et puis finalement la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Patrick? Tu as déjà vu Creed 2 la semaine dernière.
Non, je vais pas revenir sur Rocky 4. Je vais vous parler d'un autre de mes doudous des années 80 au cinéma.
OMG.
Un film, c'est pas Rocky 4, un film dont
Les Gremlins.
Dont on ne parle pas assez.
Ghostbusters.
Calmez-vous. Un film que j'avais sous blister en Blu-ray depuis longtemps et que j'ai enfin de me mettre.
Il y avait un truc qui s'appelait Scroll. Avec le mec qui avait un boomerang à trois branches, non, tu te rappelles pas, le Scroll? Non,
ça. Ah si, oui. Ah ouais, l'affiche était cultissime.
J'ai pas vu le film,
The Bounty de Roger Donaldson, un film cultissime de 84, un magnifique film, pour moi une des meilleures versions de l'histoire du Bounty, la mutinerie du Bounty. Évidemment. Casting de malade mental, on a même du mal à imaginer aujourd'hui, donc je rappelle, on avait Mel Gibson, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Daniel Day-Lewis, on a un jeune Liam Neeson, le film est magnifique, magnifique film, c'est super bien joué, c'est super bien réalisé, il y a des paysages magnifiques, et surtout pour moi ce qui tient le film et ce qui vraiment lui donne une valeur très particulière, c'est la bande originale de Vangelis.
Alors
Vangelis. Le monsieur avait fait Chariot de feu.
Tu
vois, Blade Runner, et là il nous fait donc la BO de The Bounty qui est cultissime. Alors, c'est pas une bande originale facile
Attends,
à trouver.
Il a pas passé les années 80 avant Angelis. Faut je sais pas si
ouais,
il est mort,
enfin, il les a tellement marqués.
Oui,
enfin, tu... alors, ce qui est étonnant.
Il est très marqué années 80 dans ce
il est atemporel. Pour moi, c'est même pas
marqué.
Non,
bien sûr, bien sûr. Non, non, mais il a un style qui est très ancré, quoi.
Ce qui est très intéressant, c'est qu'on est quand même dans un film qui se passe donc au 18e siècle. Et ce qui est génial, c'est que Vangelis.
Ils avaient
lui,
du santé.
Il a, exactement. Mais c'est. Il a, lui, il a sa.
Comment le dire, Santa Yamaha, il s'appelle bateau.
Il a son soundtrack en synthé, mais qui est planant, qui est fabuleux. Enfin, un soundtrack magnifique. Le score de Vangelis est cultissime sur The Bounty. C'est vraiment une des meilleures bandes son des années 80 au niveau des ambiances. Et ce qui est génial, c'est cette dichotomie entre l'image donc, d'un film historique et cette bande son synthétique, en fait.
Ouais, ouais.
Et je trouve que ce clash des deux donc, contribue vraiment à créer une ambiance très, très particulière.
Il est ressorti en Blu-ray ou...
Oui, il y a 10 ans.
Ah,
mais et voilà, je me le gardais au chaud, j'attendais le moment. Non, mais il passe très, très bien en HD. Enfin, c'est un film magnifique. Si vous l'avez pas vu, le Bounty, encore une fois, casting de fou. Puis il a vraiment cette ambiance et vraiment ce son, comme tu dis, oui, un peu typé 80, admettons-le, mais qui donne vraiment une fulgurance d'ambiance hallucinante. Et puis il y a des moments planants dans le film, hein, en termes de. Il y a des moments de, où justement le son de Vangelis apporte. Mais comme Blade Runner, dans Blade Runner, t'avais
en fait,
ça aussi. Hein.
T'insistes sur l'aspect dichotomie entre le son et l'image. J'ai eu ce sentiment-là avec le Marie-Antoinette de Coppola, avec le Brit Rock.
Cure, t'avais The Cure et compagnie. Là, c'est. C'est un peu plus subtil, je trouve que ça. Mais oui, ça concourt à ce contraste image-son qui donne vraiment une expérience très singulière. Et The Bounty, allez-y, parce qu'il passe très rarement, c'est pas un film dont on parle souvent et il mérite d'être découvert.
Corentin.
Bonjour. C'est pour la même chose que la semaine dernière, mais la suite. Donc l'espoir malgré tout, une aventure de Spirou, toujours par Émile Bravo. J'en ai déjà parlé parce que j'étais en train de le lire.
C'est ça. Je vais
aller très vite puisque écoutez le podcast de la dernière fois pour tout ce qui est l'aspect graphique. Maintenant, on n'est plus juste avant la guerre, on est pendant la guerre. Donc c'est plus grave ce qui se passe. Fantasio n'est plus journaliste, il est soldat. Spirou est toujours dans son hôtel, mais il y a plus personne dans l'hôtel parce que je sais pas pourquoi. Personne n'a très envie de partir en vacances en pleine guerre. Et là, on est vraiment sur le début d'une épopée, a priori, une épopée un peu à la franco-belge, un peu plus classique, puisque il y a du voyage un petit peu, c'est-à-dire que tout le monde se barre de Bruxelles parce qu'il y a des bombardements, les nazis arrivent, voilà ce genre de choses. C'est la première partie d'une saga en 5 tomes. À la fin du tome que je ne vais pas raconter, mais ça implique qu'il va y avoir encore d'autres voyages, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Alors, je suis un peu moins fan que le journal d'un ingénu pour une raison assez simple, comme c'est la première partie, il est plus difficile à juger parce que le journal d'un ingénu, il se finit lui-même, tu vois, il boucle un petit peu sur lui-même et donc il semble un peu plus complet. En plus, il y a un peu l'unité de lieu du moustique qui est assez agréable, alors que dans l'espoir malgré tout, bon, ça bouge beaucoup plus et donc on est peut-être un peu plus déraciné, ce qui donne une impression un peu moins complète que le journal d'un ingénu. C'est chez Dupuis, c'est sorti en juillet 2018 et je crois qu'il est en compétition pour Angoulême. Je sais pas si les prix ont déjà été donnés, mais voilà, je le dis.
Les prix ont déjà été donnés, c'est comment elle s'appelle ? C'est la mangaka.
Ah ok, très bien.
Qui a gagné.
C'est tout récent alors, ce que je n'ai pas eu passé. Mais j'étais pas sûr.
Enfin, en même temps, on enregistre jeudi, c'est diffusé vendredi, donc les gens sont déjà au courant.
Carrément.
mais moi, pour ma part, alors j'ai découvert sur le conseil d'un ami Love sur Netflix, produit par Judd Apatow et avec Gillian Anderson. Alors on a regardé donc avec ma chérie la première saison qu'on a trouvé pas mal, machin. Enfin bon, ça commençait très bien. Je croyais que ça s'essoufflait un petit peu et que finalement, c'était un sentiment très étrange où, en fait, bon, grosso modo, c'est de la rom-com à la façon Apatow qui se passe à Los Angeles, très californien, très américain, deux célibataires, trentenaires, machin, qui se rencontrent. Enfin, on est un peu en terrain très connu.
Désœuvré.
Mais au début, on a une sorte d'impression d'originalité, de truc un peu qui va aller chatouiller les codes. Et puis les codes reviennent très très fort avec des personnages assez stéréotypés alors qu'on s'attendait justement à sortir des stéréotypes.
Ça peut être confortable des fois, cela dit.
Oui, c'est confortable, mais du coup, en termes d'intérêt, et on a quand même commencé la saison 2, hein, parce qu'il y a 3 saisons dispo sur Netflix, et juste pour faire, on a fait un truc qui se fait pas, ou qu'on n'avait jamais fait. effet, c'est on est arrivé au milieu de la saison 2, puis on a fait ouais, et puis en fait on a regardé les résumés des épisodes des après, et parce qu'en fait on s'est dit non mais on va pas continuer quoi. Mais je sais pas, alors ça se trouve on a arrêté au moment d'un épisode pivot machin. Il y a des bons passages.
Ça devient bien au bout de 50 heures, Erwan.
Ouais, c'est ce qui est toujours dommage. Il y a des bons passages, il y a des épisodes qui ont fait rire, qui étaient tout, mais il y a une sorte de truc de vacuité comme ça qui était un peu.
On va pas passer notre temps là-dessus, quoi. Ouais, voilà. Même bref. Si c'est bien, on va pas passer notre temps là-dessus.
Exactement. Voilà.
Bah, c'est question du temps, la question du temps qui est toujours importante.
Et toujours cette question du temps, et du coup, on a joué à Fortnite. Non, je déconne.
Génial. Vous avez regardé Ninja.
On a lancé Twitch. Merci à la réalisation comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, pas comme toujours, mais c'est toujours un plaisir, c'est Quentin Bresson. Et nous, on vous retrouve très vite dans 2 semaines. Donc, sur,
vous connaissez un petit peu le programme. Donc,
exactement. Sur Binge Audio, sur Libération et sur les internets. Ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.